Oh non.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. Comme tous les jours, RFI vous donne la parole. Dans 30 minutes, ce sera la Libre Antenne, comme tous les vendredis d'ailleurs. Vous connaissez le principe, vous nous interpellez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. Tous les sujets nous intéressent, donc où que vous soyez en France, à l'étranger, eh bien parlez-nous de l'actualité dans votre pays, parlez-nous des sujets qui font polémique. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, et vous continuez évidemment à réagir sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous quotidien pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Ce sont donc vos questions, et la première question ce matin nous vient du Niger. Nous allons à Niamey exactement. Bonjour Ibrahim.
Bonjour monsieur.
Bienvenue sur l'antenne. Vous avez des questions, vous, sur le procès des deux policiers poursuivis après la mort il y a dix ans, de deux adolescents à Clichy-sous-Bois, en région parisienne.
Oui, j'ai une question sur l'affaire Ziad et Bouna. Quels sont les motifs réels qui ont poussé la justice française à relaxer les deux policiers accusés pour non-assistance à personne en danger?
C'est vrai qu'après 10 ans de procédure judiciaire, le verdict est tombé. Les deux policiers mis en examen ont été relaxés. Franck Alexandre, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour
Ibrahim. Merci d'être avec nous Franck. Vous suivez les affaires judiciaires à la rédaction d'RFI. Rappelons tout de même qu'il y a 10 ans, en octobre 2005, ces deux adolescents avaient trouvé la mort dans un transformateur électrique où ils s'étaient réfugiés après une course poursuite.
Cachés même.
Ils étaient cachés, oui, après, alors que les policiers les poursuivaient, des policiers qui les soupçonnaient d'avoir volé sur un chantier. Les deux adolescents sont morts électrocutés. On se souvient de la situation à l'époque en France, hein, les banlieues qui s'embrasent, le gouvernement obligé de décréter l'état d'urgence. Comment expliquer donc le verdict de la justice française?
Alors c'est un délibéré, on était devant le tribunal correctionnel, et lorsque ce jugement a été rendu lundi dernier à Rennes, il a provoqué beaucoup d'émotions évidemment. On a entendu Ziad et Bouna sont morts pour rien, vous êtes responsable, disait le frère de Ziad Bena, en pointant du doigt les deux policiers qui sont ont rapidement quitté la salle d'audience. Mais eh bien oui, le mot tant redouté est tombé, relax pour les deux policiers, mais c'est l'application du droit, tout simplement. Le procureur l'avait précisé, on ne répare pas un drame par une nouvelle injustice. Si vous voulez, le tribunal a balayé les arguments de la défense en disant les policiers n'ont perçu aucun péril. C'est ce que dit le tribunal dans son jugement. Il n'y a pas de certitude de la présence des enfants sur le site EDF, a ajouté le président. Et oui, ils s'étaient cachés. On ne pouvait pas les voir. Ils étaient rentrés dans une toute petite cabane en sautant des murs de 2,40 mètres de haut. C'était caché derrière la bobine électrique. Et même le tribunal note que la phrase prononcée par le policier Sébastien Gaïmin à la radio, vous savez, s'ils entrent sur le site, je ne donne pas cher de leur peau. Eh bien, le président du tribunal indique qu'il n'a pas la perception d'un péril grave et imminent. Si vous voulez, pour entrer en voie de condamnation, il aurait fallu que les policiers voient les enfants cachés derrière la bobine et n'interviennent pas.
Ouais.
Sauf que là, ils étaient cachés.
Conclu donc le tribunal, c'est que l'attitude des policiers a été logique.
Oui,
dans cette
ont cherché les enfants jusqu'au bout. Ne les trouvant pas, ils ont arrêté leur recherche parce qu'ils savaient pas qu'il y en avait deux qui étaient cachés. Ils ont suivi une dizaine, ils en ont arrêté 6 ou 8, et ces deux-là, ils pensaient qu'ils s'étaient échappés. Voilà, qu'ils étaient rentrés chez eux, tout simplement. Alors, ce que n'a pas supporté, si vous voulez, la partie civile, c'est que tous ces arguments soient balayés aussi sèchement par le tribunal. Parce que derrière tout ça, il y a vraiment un sentiment d'injustice. Le parquet, pendant des années, n'a pas voulu poursuivre les policiers. Au début, les autorités avaient présenté les deux adolescents, Ziad et Bouna, comme des délinquants, alors que ce n'était pas le cas. C'était des enfants qui rentraient du sport. Voilà, il y a ce sentiment d'injustice qui demeure. Mais au final, c'est la stricte application du droit. Et En fait, c'est un accident. Ce qui s'est produit est un accident, et ce qui est très mal vécu par les parties civiles, c'est que, par conséquent, ils ne sont plus parties civiles. Ils ne sont pas victimes. Voilà. Pas victime d'une injustice.
Voilà, les familles des deux adolescents qui se disent donc effondrées par cette relaxe. Quant au syndicat des policiers, eux, ils ne cachent pas leur soulagement, évidemment. Merci Franck Alexandre d'être venu répondre à Ibrahim qui nous appelait de Niamey. Il est 10h15 à Paris. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Boubacar, vous nous appelez du Sénégal. Bonjour.
Bonjour Juan et fidèle auditeur de la Radio Mondiale.
Vous avez des questions sur la cité antique de Palmyre en Syrie, cité tombée aux mains des djihadistes de l'État islamique.
Oui, tout à fait. Je voudrais savoir ce que représente Palmyre pour les djihadistes de l'État islamique au point de vouloir détruire ces sites archéologiques. Ensuite, quelles sont les dispositions prises par l'UNESCO justement pour sauver ce site de Palmyre?
Oui, Palmyre, inscrite par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Nadia Alassane est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de l'unité États arabes au patrimoine mondial de l'UNESCO. Votre directrice générale disait hier, la destruction de la cité antique de Palmyre serait une énorme perte pour l'humanité. Vous craignez une épuration culturelle, c'est ça?
Écoutez, nous craignons évidemment que le site soit cible de destruction donc due au combat, donc souffre de dommages collatéraux de cette guerre, ou qu'il soit détruit en partie à cause de destruction intentionnelle. Et pour répondre à la question de l'auditeur, je pense que dans ce cas précis, s'emparer de Palmyre a été l'objet de raisons stratégiques pour gagner la guerre et relier les parties d'Irak conquises par Daesh avec les parties de Syrie et créer une continuité territoriale. Donc je pense que dans ce cas, le patrimoine n'était pas la cible principale de l'avancée des combats.
Et on sait malgré tout, Nadia Alassane, que les djihadistes s'en prennent aux sites pré-islamiques, ce qui est le cas pour Palmyre, qui date de l'ère gréco-romaine.
Oui, on sait que Daesh s'en est pris à des sites pré-islamiques, mais ils s'en sont pris aussi à des mosquées, à des églises. Ils ont explosé la mosquée de Jonas, ils ont explosé des mausolées avec ou sans valeur historique, des mosquées chiites, mais aussi des mosquées sunnites qui ne correspondent pas à leur vision iconoclaste. Donc ils s'en prennent au patrimoine, et en effet, le patrimoine dans cette guerre a pris un rôle central et il est devenu un enjeu humanitaire et sécuritaire de taille.
Oui. Et la directrice générale de l'UNESCO formulait ses craintes également, disant que cette attaque permettrait de financer les activités des djihadistes de Daesh. Il y a de quoi s'inquiéter de voir la commercialisation d'une partie des objets qui pourraient être volés à Palmyre pour financer le terrorisme et financer Daesh?
En effet, l'ONU a une commission qui enquête sur le lien entre financement du terrorisme et les fouilles illégales et le trafic illicite des objets culturels. Nous savons que dans les territoires contrôlés par Daesh, il y a fouilles illégales systématiques, mais de très grande échelle, comme sur le site de Doura Europos à la frontière irakienne en Syrie. Et nous savons que il y a en effet financement du terrorisme en partie avec le trafic illicite. Donc c'est un enjeu en effet. Et mais vous voyez, il y a une résolution de l'ONU de février dernier qui est la résolution 2199 pour empêcher le financement du terrorisme avec de toutes sortes de financements avec le pétrole ou autre, et le patrimoine figure dans cette résolution qui demande un moratoire international sur la vente d'objets culturels en provenance de Syrie et d'Irak afin de stopper cette épidémie.
Ouais. Boubacar nous demandait également quelles dispositions pouvait prendre l'UNESCO pour sauver ce site qui est menacé. On sait que l'UNESCO a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à agir pour préserver la cité antique. Concrètement, quelle est votre marge de manœuvre aujourd'hui?
Oui, écoutez, pour ce qui est des objets mobiliers, comme je vous l'ai dit, donc il y a, on a pu arriver à ce moratoire qui réduit la marge de manœuvre des voleurs et donc dans la vente ou la des objets sur le marché noir ou même sur le marché légal, parce que là maintenant toute vente est illégale. Par contre, pour ce qui est et d'ailleurs le gouvernement syrien avant-hier a évacué tous les objets du musée de Palmyre vers d'autres lieux sûrs et nous les avions formés pour l'évacuation d'urgence.
D'accord, mais pour protéger par exemple les colonnades torsadées romaines qui ont une réputation internationale, les temples par exemple, votre marge de manœuvre vous à l'UNESCO?
Écoutez, notre marge de manœuvre malheureusement est quasi inexistante dans une guerre comme celle-ci, parce que même si l'État syrien est signataire de la convention de 1954 de l'UNESCO sur le patrimoine en cas de conflit armé, nous avons affaire à une guerre sauvage qui ne suit pas du tout les traités internationaux, et nous avons affaire à une organisation aussi terroriste qui n'est pas du tout dans le monde international et dans ses conventions. Donc je dois dire que nos conventions ne suffisent pas aujourd'hui pour protéger le patrimoine bâti, et c'est pour ça que nous en avons appelé à la Cour pénale internationale, au Conseil de sécurité de l'ONU, pour prendre des dispositions majeures en disant attention, le patrimoine est devenu un enjeu sécuritaire dans cette région. Il est utilisé pour gagner la guerre psychologique, médiatique, pour terroriser. Et vous savez, il y a certains pays comme l'Italie qui commencent à mettre sur la table des négociations internationales l'idée de casque bleu pour la culture, pour protéger le patrimoine. Mais ce phénomène est nouveau et les solutions sont en cours de réalisation, et malheureusement beaucoup sera parti avant qu'on puisse trouver une solution internationale.
Merci beaucoup Nadia Alassane d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à Boubacar qui nous appelait de Dakar. Je rappelle que vous êtes chef de l'unité États arabes au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont vos questions, comme tous les matins d'ailleurs. Vous nous appelez, aucune question n'est tabou, toutes vos questions nous intéressent. Olivier Four, le spécialiste des questions militaires à RFI, s'installe dans ce studio. Bonjour Olivier.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous et merci de venir répondre à Clovis qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Clovis.
Bonjour Juan, bonjour Olivier.
On vous écoute, on va tendre l'oreille, j'ai l'impression que le réseau n'est pas très bon. Vous avez des questions concernant les navires Mistral que la France était censée livrer à la Russie?
Ok, bienvenue ici au campus universitaire de Kinshasa. Moi, à cause de la crise ukrainienne, la France refuse de livrer les bateaux Mistral à la Russie. Et sur ce, j'ai deux questions. D'abord, la première question à double volée. Je veux savoir d'abord le temps de discussion autour de cette affaire.
Oui.
Ça, c'est pour la première volée. La deuxième volée, quelle solution propose le départ? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, pourquoi la Russie refuse la revente de ces Mistral?
Alors, Olivier Four, la rupture du contrat a été actée, là-dessus je pense que tout le monde est d'accord. Pour autant, les discussions se poursuivent.
Oui, effectivement, on voit bien qu'on est arrivé à un point de non-retour. Visiblement, à Paris comme à Moscou, plus personne n'imagine que ces bateaux soient livrés un jour à la Russie. Vous savez que la France est allée de report en report. Au départ, on parlait d'une livraison à l'été 2014. On en a beaucoup parlé ici, sur l'antenne de RFI, chez vous, Juan. Puis ensuite à l'automne, puis on a parlé de février 2015, nouveau délai, et là éventuellement du mois de mai, là maintenant c'est terminé, au final rien n'a bougé et les deux BPC sont en train de rouiller à Saint-Nazaire, donc c'est pas très joyeux. Donc on a appris par voie de presse que la France avait proposé le remboursement des sommes déjà versées par la Russie, en fait ce sont les versements, les acomptes sur un contrat global d'1,2 milliard d'euros. Alors pour cela, faudrait déjà se mettre d'accord sur ce que doit vraiment la France à la Russie. Qu'est-ce qu'on met dans la balance en réalité? Uniquement l'acompte déjà versé. Dans ce cas, la France a chiffré environ 785 millions d'euros. Mmh. Ou alors, est-ce qu'on compte les frais supplémentaires? Parce que les Russes, dans cette affaire, disent « Attendez, nous, on a déplacé 400 marins pendant 6 mois pour la formation en France. On a mis des équipements sur ce navire. On a préparé en Russie les docks pour accueillir ces gros bateaux qui sont les Mistral. » Bref, tout ça, ça chiffre. Et donc, selon eux, ça dépasserait le milliard d'euros. Sans compter qu'il faut quand même le rappeler, ce contrat Mistral, c'était un contrat 2 plus 2, c'est-à-dire 2 Mistral fabriqués en France. France, chez DCNS et STX, et puis deux qui devaient être faits en Russie, dans les chantiers OSK. C'était ça la contrepartie. Donc je suis pas allé voir ce qui s'est passé dans les chantiers d'OSK, mais si OSK, je sais pas, a commencé à acheter des machines-outils, à découper des tôles, a commencé à investir pour fabriquer le Mistral 3 et 4 qui était prévu, bah, ils peuvent dire aussi, attendez, nous, tout ça, c'est de l'argent qu'on a investi dans ce programme, et c'est en pure perte. Donc voilà pourquoi les Russes réclameraient un peu plus.
Voilà, et puis il y a un autre point de discorde, c'est l'avenir des deux navires. Les Russes ne veulent surtout pas que la France les vende à un autre pays.
Oui, alors ça, c'est un peu surprenant. Alors, tout ça, normalement, c'est quand même assez cadré dans le contrat à l'origine. C'est déjà arrivé qu'au bout d'un moment, un matériel soit mis sous embargo et qu'il soit revendu à un pays tiers ou récupéré par le pays. En 1967, après la guerre des Six Jours, la France devrait livrer des Mirage 5 à Israël. Il y a eu un embargo décidé par le général de Gaulle. Ces Mirage 5 n'ont jamais été livrés, ils ont été récupérés par l'armée française. On peut trouver des cas aussi où les avions, les hélicoptères, les bateaux.
Enfin là, la France, en l'occurrence, elle n'a pas besoin de ces navires.
Non seulement on n'en a pas besoin, mais en fait, la Marine nationale ne les veut pas.
Oui, parce que ça coûte très cher.
Ça coûte très cher. Et puis, elle a déjà 3 BPC. Je ne sais pas ce qu'elle ferait d'une marine à 5 BPC. Donc les Russes, alors pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que ces bateaux soient vendus? Peut-être qu'ils ont encore l'espoir de trouver un accord. C'est pas ça, il peut y avoir des choses secrètes, des revirements de situation. Bon. Les Russes ont peut-être demandé des spécifications sur ce bateau, puisque quand même, il est taillé pour la marine russe, qui peuvent qualifier de secrète et qui voudrait pas transférer.
Ah oui.
Mais ça me paraît un peu fumeux cette affaire-là, parce que c'est pas très crédible, parce que si en fait il y avait des adaptations sensibles à faire, je pense pas qu'ils les auraient fait faire par les Français, ils auraient peut-être fait chez eux par la suite. Bon. Et puis enfin, ce qui semble clair, c'est qu'en tout cas les Russes ne veulent pas payer les frais d'adaptation du navire. C'est-à-dire qu'en fait ils veulent pas dire bon ben voilà, le contrat est cassé, il va falloir qu'on paye pour retirer les équipements spécifiquement russes. Vous savez que tout a été traduit en cyrillique. Il y a des pages et des pages, des milliers de pages de documentation qui ont été notamment pour la formation, qui ont été faites en cyrillique, des documents qui sont faits spécialement pour les Russes, tout a été adapté au système russe, à ce qu'ils pouvaient faire monter dedans, des hélicoptères, des tanks, des choses comme ça. Donc voilà, et le fameux système de combat, donc le système, si vous voulez, le cerveau un petit peu, le système command and control qui fait un peu ce qui fait un peu de ce navire un navire de commandement à la mer, qui était spécifié OTAN, lui a été retiré et il y a un nouveau système qui a été mis en place pour les Russes sans les clés de codage OTAN, c'est-à-dire qu'en fait pour pas que les Russes aient les clés et les codes secrets de l'OTAN, c'est un peu ça l'idée. Donc c'est des bateaux qui sont pas exactement au standard, qui sont pas du tout au standard des bateaux français et qui sont pas non plus au standard de ce que des CNS pourraient proposer à l'exportation.
Ouais, alors concrètement, que pourra faire la France avec ces deux navires? Elle pourra pas certainement les vendre à d'autres pays. Il faudra quoi? Les détruire?
Je pense qu'il va falloir trouver un accord. Il va falloir que ça va se jouer entre le constructeur et l'État. Il va falloir trouver un accord pour que les Russes acceptent la revente. Et il va falloir trouver un client.
Ouais. Enfin, les experts, Olivier Four, et vous faites partie de ces experts, je ne sais pas si vous partagez cette analyse, mais enfin, les experts en général disent que le moins coûteux, finalement, pour les contribuables français, ce serait tout simplement de les couler.
Ouais, alors là, oui, mais alors vous imaginez en termes d'image de marque ce que ça représente aussi, quoi, et en termes de signal envoyé, il y a ça, et puis il y a aussi ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération aussi. Cette affaire-là, vous savez, en France, on le dit souvent et je le répète sur cette antenne, c'est l'État qui est décisionnaire en matière d'exportation de matériel de guerre. Ça passe en CIEM, ce qu'on appelle en commission interministérielle d'exportation de matériel de guerre. Donc c'est l'État qui au final met son tampon et dit ça on exporte, ça on n'exporte pas vers tel ou tel pays. Là, c'est quand même un signal qui vis-à-vis des clients de la France peut-être mal interprété. Parce que là, on est en pleine négociation, par exemple, pour essayer de vendre des Rafales en Inde. Les Indiens pourront très bien nous dire, attendez, on n'a pas trop apprécié ce que vous avez fait aux Russes autour de la crise ukrainienne et le fait que vous les empêchiez de recevoir ces bateaux. Nous, on veut que ce soit spécifié dans l'accord que, en aucun cas, même en cas de changement de politique ou quoi, vous puissiez nous mettre un embargo sur ces systèmes-là. C'est pour ça que les pays acheteurs, essayent de se lier avec le pays vendeur par des accords de défense, par des partenariats, voire par des traités qui les engagent au-delà des changements politiques.
Olivier, je vous interromps, c'était passionnant, mais on est obligé d'en rendre l'antenne. C'est la fin de cette première partie, mais vous aurez peut-être l'occasion d'y revenir. Et on s'excuse pour les autres auditeurs. Hein. On avait d'autres questions prévues ce matin, mais ne vous inquiétez pas, on vous rappelle lundi, car les questions à la rédaction reviennent évidemment dès lundi. Dans un instant, le journal, et nous on se retrouve vraiment dans 10 minutes pour la libre antenne. À tout de suite.